Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
Allez RTL, bonsoir. La deuxième heure continue. 19h17. On accueille maintenant un nouvel invité. Il est historien. Il a dirigé le Centre français de recherche à Jérusalem et il est partout en ce moment en librairie. Bonsoir Vincent Lemire.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je dis partout parce que vous avez vendu 250 000 exemplaires de 7 BD que je montre à la caméra sur RTL.fr. Histoire de Jérusalem, 4000 ans d'histoire racontée avec des bulles. Et puis votre nouveau livre, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, permet en 50 questions de mieux comprendre ce conflit ô combien complexe. Avant de revenir sur ce succès, sur ce besoin de pédagogie aussi visiblement de la part du grand public, je voudrais votre regard sur l'actu qui est toujours aussi brûlante. 130 otages toujours aux mains du Hamas à Gaza. Demain, ce sera leur 200e jour de détention, 200 jours depuis les attaques du 7 octobre. Un quart des Israéliens disent aujourd'hui avoir besoin d'aide psychologique, le traumatisme est toujours là, alors que début de Pessah, la Pâque juive. Je ne sais pas si vous êtes retourné régulièrement sur place ces dernières semaines, mais on a la sensation que le traumatisme, il est toujours extrêmement profond.
Ouais, mais on a une société. Ouais, mais on a une société qui est en post-trauma. Et avec un gouvernement en plus qui fait tout pour qu'elle reste en post-trauma, on sait, si on parle avec des psychologues, le post-trauma, c'est comme une capsule psychique. On est à la fois dans la souffrance et en même temps c'est protecteur d'une certaine manière. C'est de plus en plus dur d'en sortir au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Et il y a plein, je suis pas retourné encore en Israël ni en Palestine depuis le 7 octobre, mais j'ai des contacts là-bas qui me disent on est encore le 7 octobre. Il y a même des gens qui comptent on est le 324 octobre là. Enfin, qui n'arrivent pas en fait à sortir de ce calendrier.
De ce mois-là.
Ouais. Donc effectivement ce soir c'est le Seder de Pessah. Normalement c'est un moment où toute la famille est réunie et symboliquement c'est toute la société qui est réunie. Tout le monde est là. Donc les absents sont hyper présents dans l'esprit de tout le monde. Et puis de l'autre côté, on a une population civile de Gaza dont on voit qu'elle se prépare en fait à l'offensive de Rafah, qui a même peut-être
dans le sud
commencé.
De la bande de Gaza,
où
1,5 million de personnes ont été déplacées.
1,5 million de personnes qui vivent en ce moment à Rafah, qui est une ville qui était déjà hyper dense. La dernière fois que j'étais à Gaza, c'était en juin dernier. À Rafah, avant le mois d'octobre, il y avait 275 000 habitants. Et c'était super dense. Là, il y en a 1,5 million. Et les bombardements ont commencé. Et ce qui s'est passé hier à Rafah, il y a eu une frappe qui a fait 22 morts, dont 18 enfants et une femme enceinte. Ça nous donne à peu près le ratio de ce qui va arriver à Rafah si effectivement la bataille de Rafah est effectivement lancée.
Vincent Lemire, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, c'est pas un aspect du traumatisme israélien? Parce que le pays se croyait capable de prévenir une attaque d'envergure venue de Gaza, et puis non, en fait.
Oui, et il y a une deuxième annonce de démission, il y a quelques minutes, là j'ai lu le commandant de la zone centrale qui a annoncé sa démission, donc ça fait déjà deux démissions, elle sera effective au mois d'août. C'est haut gradé de l'armée, ils ont un mot qui revient tout le temps dans leur lettre de démission, c'est responsabilité. C'est évidemment un message politique qui s'adresse au responsable en chef, au chef du gouvernement, à Benjamin Netanyahou, qui lui ne veut prendre aucune responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors c'est un aveu d'échec, c'est démission. On attendait tous, après le 7 octobre, plutôt une démission de Netanyahou. Elle n'arrivera pas. Spoil. maintenant, on peut, en fait, rien, enfin, Biden, enfin, tout le monde a essayé par tous les moyens, etc. Tant qu'il aura ses 64 députés, il pourra les stipendier d'une manière ou d'une autre, il ne démissionnera pas. Donc, pour l'instant, c'est des démissions qui se passent, en fait, au niveau de l'armée. Ce qui est effectivement un aveu d'échec aussi pour le mouvement civique israélien qui continue, hein. Ils attendaient pas des démissions de généraux de l'armée. Ils attendaient d'abord la démission de Netanyahou.
Il y a eu une nouvelle frayeur aussi avec l'attaque des drones iraniens. Il y a 10 jours, l'escalade de violence, est-ce qu'elle va s'arrêter là, selon vous, entre Israël et l'Iran? Les deux pays ont un peu sauvé la face et puis on arrête là, ou ça va continuer?
Alors, moi je suis un peu abonné à RTL depuis 15 jours. Le dimanche il y a 15 jours, avec Mohamed Bouafsi, j'ai dit la réplique iranienne va avoir lieu et elle sera importante, elle a eu lieu. Et puis lundi dernier, j'étais au micro d'Yves Calvi lundi matin, et alors tout le monde attendait un embrasement. Ouais. J'ai dit une désescalade est un scénario possible, plausible, parce que les deux parties y ont intérêt et elles peuvent d'une certaine manière se retirer du jeu maintenant en prenant chacune leur gain. Les Iraniens ont fait pour la première fois cette attaque massive, ils ont franchi cette ligne rouge à moindre frais, et les Israéliens, et en particulier le gouvernement Netanyahou, a retrouvé un peu d'oxygène. D'un coup, l'Occident soutient à nouveau Israël, le Conseil de sécurité, voilà, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Donc chacune des deux parties peut retirer ses gains. au détriment, encore une fois, et je l'avais dit dès lundi dernier, au détriment des populations civiles de Gaza.
Et quand vous êtes venu la semaine dernière, moi, ce qui m'a marqué dans votre entretien lors de la matinale de RTL, c'est que vous avez, avec votre rôle d'historien, vous nous avez raconté qu'avant 79, avant la révolution islamique, bah, Israël et l'Iran, ils étaient alliés.
Mais oui, il faut jamais oublier, c'est des pays qui se connaissent parfaitement. Jusqu'en 1979, l'Iran, c'était même le seul pays de la région avec lequel les Israéliens pouvaient parler, parce qu'il n'avait que des ennemis autour. C'est des pays qui se connaissent très bien, des sociétés qui se connaissent très bien, qui se respectent. Donc ces deux ennemis, voilà, qui se jaugent, qui savent que voilà, c'est les deux plus sérieux hein, dans la région, y compris sur le plan géostratégique, sur le plan. C'est pour ça que les répliques sont à chaque fois calculées au millimètre. Et bon, après, il y a d'autres proxys, comme on dit, qui sont là pour être le bras armé de l'Iran beaucoup plus proche de la frontière israélienne. On oublie toujours hein, pourquoi est-ce que l'Iran a besoin de proxy. On parle de proxy tout le temps. Mais il faut prendre au pied de la lettre. Proxy, c'est aussi ceux qui sont proches de la frontière pour frapper plus vite et plus fort. Et là, pour le coup, je ne serais pas si optimiste. Le front nord continue de se réchauffer. Et en plus, la société civile israélienne est pour une guerre contre le Hezbollah. Donc pour le coup, elle finira par arriver, à mon avis, dès que la guerre de Gaza sera terminée.
Vous, l'historien, vous regardez derrière vous, mais j'imagine que vous vous demandez aussi ce qui se joue aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut conduire, dans quelle direction vont ces deux sociétés. Quand on voit le traumatisme à la fois en Israël, la désolation, vous l'avez rappelé, la mort, la faim à Gaza, on se dit que l'espoir de paix, il est en train de reculer de plusieurs décennies, parce qu'il y a des générations qui vont grandir en se détestant encore davantage des deux côtés.
Oui, sauf si les deux sociétés comprennent qu'elles sont face à un risque existentiel. Je l'ai bien, et ça je l'ai dit dès le 10 octobre, les deux sociétés israéliennes et palestiniennes sont face à un risque existentiel pour leur survie même. Les attaques du 7 octobre, hein, encore une fois, 1200 morts, à l'échelle de la France, c'est 10 000 morts. Un attentat avec 10 000 morts. Vous imaginez ce que ça provoque. Les 35 000 morts civils de Gaza, et c'est sans doute plus, parce qu'il y en a sous les décombres, à l'échelle de la population française, donc sur les 2,5 millions d'habitants de Gaza, ramener à la population française, ce serait 1 million de morts, dont 600 000 femmes et enfants. Donc ces deux sociétés aujourd'hui qui sont face à des niveaux de souffrance et de traumatisme qu'elles n'ont jamais connus dans leur histoire. Enfin, je veux dire, on n'exagère pas, il faudrait que les auditeurs le sachent, de faire des temps d'antenne, etc., sur le conflit israélo-palestinien actuellement, c'est pas exagéré, c'est pas du sensationnalisme, etc., ça n'est jamais arrivé. J'ai donné un chiffre l'autre jour, la deuxième intifada, c'est 3000 morts en 5 ans. 3000 Palestiniens morts en 5 ans. Là, c'est 10 fois plus de morts en 10 fois moins de temps, facteur 100. C'est absolument vertigineux ce à quoi on est en train d'assister. Donc ça peut donner aussi un espèce de sursaut. C'est la seule chose qu'on peut espérer, en tout cas.
Vincent Lemire, vous restez avec nous. On va ouvrir vos livres dans un instant pour mieux comprendre justement l'histoire du Proche-Orient. Et puis, vous allez aussi nous raconter vos jeunes années d'historien. Le moment où vous avez mis un pied à Jérusalem, le nez dans les archives. Vous ne bougez pas, RTL Bonsoir revient dans une seconde. Il y aura aussi de la cuisine, de la musique et un joli cadeau à gagner d'ici 20h.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL Bonsoir.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Cini.
Et la deuxième heure avec notre invité, c'est l'un des meilleurs spécialistes de Jérusalem, du Proche-Orient. Vincent Lemire est avec nous. Vos livres, Vincent Lemire, on l'a dit, ils sont dispo dans toutes les librairies. C'est un succès, on les voit trôner. Moi, je les ai vus dans les gares, dans les librairies des gares, au milieu de magazines beaucoup plus futiles. Et tant mieux, parce que ça veut dire que on s'intéresse, nous, Français, à l'histoire du Proche-Orient. 250 000 exemplaires vendus de Histoire de Jérusalem. Cette BD avec Christophe Gauthier aux éditions Les Arènes, qui est sortie d'ailleurs bien, bien avant le 7 octobre. Ça veut dire qu'il y a une envie de comprendre, qu'il y a un besoin de pédagogie autour de ces questions. Je ne sais pas si vous le constatez lors de dédicaces, de rencontres dans les librairies avec des lecteurs.
Dédicaces, des centaines de mails en fait que je reçois, beaucoup de mails de parents qui lisent la BD et qui disent on a quelque chose à raconter à nos enfants. Alors des parents de culture musulmane, de culture juive, de culture chrétienne, des athées, enfin des parents, ceux qu'on des parents,
tout le monde.
Parents d'élèves quoi qu'on croise et qui sont en fait confrontés aussi, qui sont eux traversés. J'ai reçu des mails très très bouleversants de gens qui m'ont dit juste après octobre, le 7 octobre, qui m'ont dit j'avais des pensées très très laides en moi, Alors, on pouvait imaginer lesquels, de vengeance ou de... Et en fait, cette perspective historique, elle m'aide à respirer à nouveau, à pouvoir parler à mes enfants, parce qu'on ne peut pas, a priori, on ne transmet pas des mauvaises pensées à ses enfants. On a envie plutôt d'essayer de les réguler, de réguler leurs propres émotions, etc. Beaucoup de profs aussi, et ça, c'est évidemment ce qui me touche le plus professionnellement, parce que je suis prof, qui m'ont dit, ça m'aide à cadrer les débats entre les élèves. J'ai utilisé la planche de la page machin pour cadrer un débat ce matin, etc. Et ça,
c'est une jolie récompense.
Ouais. C'est vraiment un encouragement, quoi.
Et c'est un clin d'œil aussi de vous voir cartonner avec une BD, parce qu'il paraît qu'au collège, vous en vendiez une sous le manteau aux copains en caricaturant les profs. C'est vrai, ça ?
Ouais.
Ça avait commencé par une BD, en fait.
Non, mais c'est vrai. Avec un copain qui s'appelle Pascal Cibertin Blanc, dont j'ai le plaisir de rappeler le nom maintenant, qui est illustrateur aujourd'hui. Et alors, on caricaturait les profs, on photocopiait ça, on agrafait, on mettait du scotch, et on vendait ça un peu sous le manteau. Et puis, on avait sorti aussi une autre BD qui s'appelait L'écho des savanes latines. Parce qu'on était dans le quartier latin. Ouais, complètement. Je me souviens, on avait interviewé les Berruriers Noirs. Enfin bref, on était des gamins, on était des sales.
Punk.
C'était un fanzine, en fait.
On était un peu des sales gamins. Mais c'est vrai que, moi, la BD, j'ai toujours aimé en lire. Et j'ai toujours aimé essayer d'en fabriquer, quoi. Même si je dessine comme une patate. Pour cette BD-là, c'est moi qui ai fait le storyboard en bonhomme patate, d'ailleurs. Ça, tout le monde peut le faire, hein. Bonhomme patate, il est fâché.
Des BD, il faut juste trouver le bon illustrateur.
Et après, il faut un dessinateur qui a un vrai talent. Et Christophe, j'adore son dessin, quoi.
Alors, nouveau livre maintenant, c'est Israël, Palestine, anatomie d'un conflit avec Thomas Negaroff. Là aussi, 50 questions pour tout comprendre. Vous êtes atterré parfois par nos imprécisions, notre manque de connaissances sur le Proche-Orient. Et franchement, je nous mets dans l'eau.
Surtout moi.
Alors, moi, je vais vous le dire là au micro et je vais essayer de le dire très sincèrement pour pas que ça paraisse démago. Moi, j'ai un immense respect pour les journalistes. Je les ai énormément côtoyés à Jérusalem. J'y ai vécu longtemps et il y avait des correspondants qui étaient là, qui des fois... les correspondants qui arrivent le 3 septembre avec leurs enfants et ils arrivent le 7 octobre, ils ont besoin d'être aidés. Mmh. Et moi, ce que j'ai entendu depuis le 7 octobre, c'est des journalistes qui m'appelaient en disant « aidez-nous à cadrer les choses, à documenter, à raconter, etc. » Les journalistes, ils doivent tout couvrir. Enfin, je veux dire, vous devez couvrir le Covid, vous devez couvrir, enfin, dans des temps limités. Je pense qu'il y a vraiment une. Il y a eu, en particulier après le 7 octobre, je crois, dans les médias, je trouve un espèce de sentiment de gravité. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas raconter n'importe quoi, et ils ont eu besoin, oui, d'experts, comme on dit, mais ça s'est fait très 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 naturellement. Et ce podcast, il a été énormément écouté par les ados.
Il y a aussi
un podcast, mais on a voulu en faire un livre parce que c'est pas forcément les mêmes publics. Et puis le livre, il apporte beaucoup de choses. Il y a des cartes, il y a des infographies, mais en essayant de pas être intimidant, parce que c'est ça le problème sur ce sujet, c'est que tout le monde est un peu intimidé. Et en fait, ces formes-là, la BD, le podcast, ce livre illustré, ça permet de dire, c'est compliqué, mais ça va, vous allez y arriver.
On peut comprendre.
C'est pas incompréhensible.
Vous dites que vous comprenez la difficulté pour les journalistes. Pour les humoristes, c'est très compliqué. Israélo-palestinien.
Oui, il paraît.
Qu'on fait? Non, mais au-delà de ça, est-ce que justement l'humour parvient occasionnellement à ressortir maintenant qu'on est loin, évidemment, pas loin du 7 octobre, mais on avance un peu et j'imagine qu'à un moment.
Mais c'est vachement utile et la meilleure réponse que vous pourriez faire, vous, les humoristes, c'est qu'il n'y a pas de société qui rigole plus avec un humour noir que les sociétés israéliennes et palestiniennes. Je veux dire, c'est des
produits. Les Palestiniens aussi?
Ah non, mais les Palestiniens.
L'humour juif, c'est connu.
Mais non, mais l'humour juif est hyper connu et l'humour palestinien. Je veux dire, c'est des producteurs de blagues. on a du mal à suivre. Mais alors, parfois, c'est gore, c'est hard. Mm. C'est 10 fois pire que ce qu'on peut sortir ici. mais ça leur fait un bien fou. Enfin, je veux dire, y compris depuis le 7 octobre. Faudrait peut-être dire parfois à nos...
Écoutez, je vais trouver deux correspondants là-bas.
À nos censeurs, leur dire branchez-vous un peu sur les radios et sur les médias israéliens et palestiniens et sur les réseaux sociaux. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils font des blagues tout le temps.
Vous arrivez, vous l'avez dit, à Jérusalem dans les années 90. À l'époque, et on le voit très bien dans votre dernier livre, c'est l'époque des accords d'Oslo, post-accords d'Oslo. On se dit que la paix est possible. Il suffit de regarder les cartes dans votre dernier livre. Il y a une gestion conjointe des territoires qui est imaginée, un corridor qui d'ailleurs verra jamais le jour entre Gaza et le reste des territoires palestiniens. Vous y avez cru en arrivant là-bas?
Oui. Ouais, j'y ai cru. On y a cru, je crois. Enfin, on a tous voulu y croire. On avait raison, peut-être, d'y croire. Aujourd'hui, on comprend pourquoi ça n'a pas marché. On a pris les choses à l'envers. On a voulu compliquer les choses au-delà du possible. Parce que pour le coup, le conflit, je peux l'expliquer assez facilement à vos auditeurs ou dans un livre. Les accords d'Oslo, moi-même, j'ai du mal à comprendre. Enfin, les phases A, B, C, tout ça a été fait pour que d'une certaine manière, à un moment, ça devienne incompréhensible. Non, ça a été un vrai espoir. On circulait dans cette région, il n'y avait pas le mur de séparation, on pouvait aller à Gaza et en sortir assez facilement, en fait. Tout ça paraît presque inimaginable. Moi, je vis encore dans l'énergie de l'espoir des années 90.
Jérusalem, racontez-nous, Vincent Lemire, vous y arrivez comment? Par hasard, c'est ça? C'est votre directeur de thèse qui vous pousse?
Oui, on est dans les années 90, on est en printemps 1995, je me souviens, c'était juste après les élections présidentielles ici. Jospin Chirac. Et oui, on est. C'est un endroit sur lequel moi je ne voulais pas travailler. Moi, je voulais travailler sur Jaffa, Tel Aviv. Bon, la plage. Non, mais il y a ça. Puis il y a aussi. Bon, c'est une société littorale. Je me disais, je vais travailler sur ces sociétés cosmopolites, etc. Et mon directeur de thèse me dit non. Tu montes à Jérusalem parce que bah oui, c'est à 800 mètres d'altitude et on a besoin d'historiens là-bas. Il y a que des dingos. Et moi, évidemment, j'ai pas envie d'y aller.
On a encore besoin d'historiens là-bas. Il y a encore plein de choses à. Des archives à dénicher qui n'ont jamais été ouvertes.
Plus que nulle part ailleurs. Et pour une raison très simple, en fait, tout le monde peut comprendre. Tout le monde a peur là-bas. Donc les documents, ils sont pas accessibles. Et donc c'est un travail énorme. Moi, je dirige toujours un grand projet qui s'appelle Open Jérusalem, qui est un projet européen, où on ouvre les archives les unes aux autres aussi. Et on les traduit pour qu'elles puissent être lisibles et accessibles.
Ils ont peur de quoi, en fait?
Ben, ils ont peur de pourquoi est-ce qu'on voudrait leurs archives. Par exemple, là, en ce moment, il y a un conflit entre les Arméniens et des promoteurs israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, en ce moment même. Et il y a des archives qui permettent, des archives du XVIe siècle, qui permettent aux Arméniens de se défendre en disant « Non, ce terrain est bien à nous ». Vous voyez, les archives ont une vraie... C'est pas juste pour faire de l'histoire et se raconter des histoires.
On entretient le flou, en quelque sorte.
Voilà, ça permet en fait d'entretenir le flou et de ne s'en servir que si on en a besoin.
Et vous avez pu travailler aussi en Cisjordanie ou à Gaza?
J'ai travaillé à Gaza, je vous l'ai dit, la dernière fois, c'était au mois de juin. J'ai travaillé bien sûr en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, j'ai travaillé en Jordanie. En fait, là aussi, peut-être on voit c'est notre rôle d'Européen, d'Occidental ou de Français. C'est-à-dire que moi, j'assume une extériorité au conflit. Et même des fois, je la surjoue. Je ne suis pas parti au conflit. J'ai un passeport européen et je leur ai dit plusieurs fois, la dernière fois que j'étais à Gaza, j'ai dit la prochaine guerre, je ne serai pas victime. Et quand je parle devant des étudiants israéliens, j'ai dit, moi, je n'irai pas sous les drapeaux. Et c'est ça qui me donne non seulement une légitimité, mais aussi le fait qu'on peut apporter autre chose, justement. On peut apporter autre chose, ne serait-ce que de circuler entre les différents acteurs et les aider, peut-être pas à dialoguer, mais en tout cas à s'écouter les uns les autres. Quoi.
Vous vous souvenez de la première fois où vous avez posé un pied à Jérusalem, ce que vous avez ressenti?
La lumière. Ouais, la lumière. Bon, je crois que c'est ce que tout le monde... On est à 800 mètres d'altitude, c'est une ville de montagne, c'est une ville de désert. Donc c'est une lumière aveuglante. Le vent, les pierres... Et puis, on entend parler toutes les langues. Et parfois, un certain calme et une certaine qualité de coexistence. Parce que, je dis toujours, je prends cette image, Jérusalem, c'est l'œil du cyclone. C'est ce qui organise toutes les tempêtes alentour. Mais dans l'œil du cyclone, pour ceux qui ont fait de la voile, c'est assez calme.
C'est assez calme.
Des fois même, c'est un peu bizarrement calme. Mais voilà, Jérusalem, c'est tout ça à la fois. C'est plein de paradoxes. C'est pour ça qu'il faut soit y aller, bon, en ce moment, c'est peut-être un peu tendu, soit se documenter parce que ça permet de tout observer.
Vous restez avec nous, Vincent Lemire, vous, l'historien, histoire de Jérusalem. C'est la BD Israël-Palestine, anatomie d'un conflit. C'est le petit livre si pratique et si intéressant. En librairie, la suite dans RTL Bonsoir, c'est de la musique, c'est de la cuisine. Vous qui avez vécu à Jérusalem, on va vous demander si ces deux peuples peuvent parfois aussi se retrouver autour de la cuisine. À suivre donc la playlist de Steven Bellery. Steven, on écoute qui, on écoute quoi?
Jérémy Frérot et Laure Manaudou, une histoire d'amour qui s'est terminée dans le plus grand secret. Oh. Jérémy Frérot en a fait une chanson.
La cuisine aussi, la guinguette de Pierre Arbulo. Salut Pierre.
Salut.
Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir?
Un pesto à l'ail des ours.
Avec des pâtes?
Absolument.
Forcément. À tout de suite.
RTL, bon.